comment discerner, comment faire un choix. Alors, l'homme et la femme sont créés, comme on a dit, à l'image de Dieu, c'est-à-dire capables d'aimer, et ceci bien sûr librement. Aimer, c'est d'abord un acte de volonté. C'est pas je l'aime, mais je décide que je vais l'aimer. Il y a la décision, et la volonté et la décision, pas un simple sentiment. Depuis que nos garçons sont hauts comme ça, on leur dit, quand on aime quelqu'un, c'est pour la vie. C'est pas je l'aime, mais est-ce que je veux l'aimer toute ma vie? Et aujourd'hui, qu'ils sont adolescents grands, quand je recommence à aimer, c'est pas aimer, mais est-ce que c'est pas je l'aime, mais c'est aimer pour toute la vie, je décide que j'aime. Ils me sortent, maman, arrête ton poème, on connaît. Donc c'est vraiment, c'est pas j'aime, mais je décide que je vais aimer. On l'applique aux décisions qu'on a à...
Parce que je désire, je décide.
Donc la volonté, c'est la capacité à faire des choix par nous-mêmes.
Alors, le libre-arbitre, disposition à la liberté, une ouverture au possible. On le confond parfois, et même souvent, avec la liberté. Et à ce moment-là, il est synonyme d'indépendance, vous vous rappelez tout ça. Il n'y a en fait de liberté authentique que si je choisis un bien authentique. Il n'y a de liberté authentique que si je choisis un bien authentique. Alors, authentique, un vrai bien, enfin le meilleur bien, enfin bon, authentique quoi. Bon. Du reste, vous vous rappelez ce que disait saint Augustin, choisir le mal, c'est aliéner, entraver notre liberté. Ou celle de l'autre d'ailleurs, parce que parfois nos choix concernent les autres, et donc c'est les autres qui se retrouvent entravés par nos choix. Posséder, mépriser, etc. C'est donc dans l'amour en acte et en vérité que nous sommes le plus libres, dans l'amour en acte et en vérité, et par l'amour que nous pouvons, pensons à nos amis, à nos conjoints, à nos enfants, etc., et par l'amour que nous pouvons conduire l'autre vers la liberté. Dans l'amour, il y a le respect, sur un chemin de liberté. Dans un acte dont le mobile est l'amour, et même plus encore que l'amour, la charité, c'est-à-dire l'amour qui nous vient de Dieu. Bon. La difficulté, pour entrer dans la question d'aujourd'hui, la difficulté, c'est que nous ne savons pas spontanément ce qui est bien. Nous ne savons pas spontanément ce qui est bien. Discerner, déterminer quel est le bien authentique. Discerner, c'est déterminer quel est le bien authentique. Hier, on a dit, il est nécessaire de discerner, sinon on ne sera pas libre. Aujourd'hui, on va essayer de savoir l'objet de ce discernement. Et donc, ce discernement se fait en vertu, cette détermination du bien authentique se fait en vertu de certains critères, de certains paramètres, de certaines normes, autrement dit, en vertu d'une certaine idée de l'homme et d'une certaine idée de la vérité. Donc, notre discernement, il se fait en vertu de critères moraux. D'abord, les obstacles à un bon discernement. Quelques obstacles. Donc, si vous avez bien compris, avant de s'engager, il vaut mieux donc réfléchir aux enjeux et à la valeur de nos choix pour éviter de s'engager à l'aveuglette. Notre liberté est le contraire de quelque chose qui serait automatique, standardisé, instinctif ou fatal. Fatal. On l'a dit hier, comment pouvons-nous être responsables si nous vivons au seul gré de nos impulsions, de nos intuitions, de nos affections et ou bien des opportunités. La liberté suppose du recul. Par exemple, vous savez sans doute aussi bien que moi, que prendre une décision sous l'empire de la colère ou d'une émotion forte, en général, c'est rare qu'on prenne la bonne décision, en fait. Donc on a besoin, souvent, parce que là, ça paraît simple ce qu'on dit, mais vous savez bien que dans la vie, c'est pas toujours aussi simple à appliquer. On a besoin de prendre du temps, de laisser un petit peu la passion, l'émotion, l'émulsion, enfin, etc., se tasser, la piscine se calmer, la piscine des sentiments. Et après, on peut prendre une décision avec un peu plus de sérénité, quoi, de recul.
Chaque groupe devrait trouver 4 raisons justifiant le genre féminin ou masculin d'un ordinateur. Voici les résultats des travaux. Les experts hommes arrivèrent à la conclusion que l'ordinateur était du genre féminin pour les raisons suivantes. Personne, sinon son créateur, ne connaît sa logique interne. Le langage qu'il utilise pour dialoguer avec un autre ordinateur n'est pas compréhensible de tous. La moindre petite erreur est stockée en mémoire pour être ressortie au moment le plus inopportun. Si vous vous engagez envers lui, vous découvrez que vous devez dépenser la moitié de votre salaire en accessoires.